Bonjour à tous et à toutes. Ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure, que le Seigneur vous donne encore ce matin de se réjouir dans ce que Dieu veut m'apporter et vous apporter à travers ce qu'il m'a mis sur mon cœur ce matin, pour chacun de vous et pour moi-même. Parce que lorsque nous apportons un message, nous nous instruisons nous-mêmes. Et parfois, ça brasse un peu, comme dit Robert souvent. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très brassé. Hein. Bon, ça va. Là. Je salue encore, oui, toutes les personnes nouvelles qui sont là ce matin, qui sont bénies au milieu de nous, et que ce culte, déjà, ce qu'on a pu partager depuis le début, j'espère, je crois, peut leur faire du bien. Hein. On voit ici que l'effectif est un peu éclairsemé. Et je pense que c'est les vacances, hein. J'espère. Et qu'ils puissent trouver aussi, là où ils sont partis en vacances, un lieu où ils peuvent encore honorer et glorifier le Seigneur avec d'autres frères et d'autres sœurs. Je pense que c'est important lorsqu'on part en vacances, lorsqu'on quitte nos habitudes et qu'on va ici et là, on cherche aussi une église assez proche. Je conseille à ceux qui parlent en vacances, de regarder sur l'annuaire évangélique s'il n'y aurait pas par hasard une église dans le secteur où ils vont partir en vacances. Et j'espère qu'ils le font et qu'ils vont trouver un lieu pour honorer le Seigneur et le glorifier avec d'autres frères et sœurs, inconnus pour aujourd'hui, mais qui sont nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais vous parler sur les choix. Un titre, les choix. Choisir. Choisir qui ? Choisir quoi ? Je crois que c'est important aujourd'hui pour nous en tant que chrétiens d'avoir une position ferme dans nos décisions que nous pouvons prendre dans la direction de nos vies pour que nous ne puissions pas être rattrapés par notre passé et même par un présent qui est parfois douloureux et qui nous produit en nous des souffrances et des angoisses à bon choix. On va lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 6. À partir du verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Dans ce texte, chapitre, Paul insiste, on peut dire lourdement, même de façon provocante, sur cette dualité qui est entre la manifestation de ce qui est la chair et ce que Dieu nous donne. Il y a une dualité pour chaque homme, chaque femme aujourd'hui. Pour nous, encore plus peut-être que pour ceux qui sont inconscients, qui ne se rendent pas compte, qui sont dans cette position de dualité. Quand nous avons rencontré Christ, nos yeux se sont ouverts. Quand l'Esprit de Dieu est venu éclairer notre vie, les choses sont devenues d'une clarté qui nous dépasse. Je me rappelle toujours, au moment de ma conversion, comment j'ai pu réaliser la différence qu'il y avait entre ce qu'était ma vie avant et ce qu'était ma vie après. Comme quoi, et les choses se sont révélées, mais tellement... C'était bien lointain, dans un brouillard auparavant, et d'un seul coup, c'est devenu très clair. Il y avait un choix. Il y avait des décisions à prendre, et des décisions importantes. Hein. Et cette dualité, nous la retrouvons dans tout homme, toute femme aujourd'hui. Jeune, comme moins jeune. S'approcher de Dieu ou glisser vers ses penchants. Et là, nous voyons des choses qui sont réelles pour chacun de nous. Si vous réfléchissez un peu, vous êtes confronté quotidiennement à cet aspect. Ou alors vous êtes parfait. Ou alors vous n'êtes plus ici sur terre. Vous êtes déjà dans le ciel. Mais nous sommes dans le royaume, c'est vrai. Mais nous avons à lutter d'une façon quand même forte, puissante, sur nos travers. Le verset 14 dit « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous ». Et le verset 19 dit aussi « Livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté ». Et je veux dire, la parole de Dieu, donc, nous a pas été donnée simplement pour la lire et pour accroître notre connaissance, mais pour aller dans l'application de ce qui est dit. C'est pour inspirer notre conduite. Ce n'est pas simplement une lecture comme c'est un beau livre, on connaît plein de choses, on connaît des versets par cœur, hein, mais c'est de la connaissance. Ce que Dieu demande de nous, c'est de l'application. Entre la connaissance et la décision, il y a un choix. Encore un choix parmi tant d'autres. Je fais ce que Dieu m'apprend dans sa parole sous l'éclairage du Saint-Esprit. Je fais. Ce n'est pas « je sais que la parole dit », mais « je fais ce qu'elle dit ». Et ça, c'est une chose qui, aujourd'hui, est très importante pour nous. On peut ergoter, on peut discuter beaucoup sur la parole de Dieu. Mais ce qui est important, c'est de la mettre en pratique. Et on a des choix. Alors, j'ai ici quelques exemples de choix. Dire la vérité. Ou pratiquer le mensonge, un petit mensonge pour se tirer d'affaire. Il y avait ma belle-mère, autrefois, qui disait cela. Un petit mensonge, c'est pas grave. Il faut bien se tirer d'affaire. Et puis, elle me disait cela face à face, en me taquinant, quoi. Hein, sachant ma position. Hein. Mais maîtriser notre colère. Ou alors la laisser éclater, je suis comme ça. Hein, vous devez m'accepter. Si je me mets en colère, je me mets en colère. Hein, je suis impulsif. Vous devez m'accepter. Ben non, maîtriser notre colère et non pas la laisser éclater. Partager ou alors conserver. Combien ont du mal à partager aujourd'hui. On dit que le français en particulier est très individualiste, qui est tout pour lui. Les autres, on verra plus tard. Hein ? L'égoïsme aujourd'hui. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes amenés à partager. Et il y a des choses qu'on ne voudrait pas trop partager. Déjà, nos biens. Quand on regarde dans l'Écriture, ils mettaient tout en commun. On dit la communauté, vivre en communauté, c'est pas trop ma tasse de thé. C'est vrai pour vous aussi ? Non ? Il y a des personnes qui aiment vivre en communauté, qui ne peuvent pas se passer d'une vie en communauté. Mais il est important d'être quand même de temps en temps un peu à l'écart. Parler pour édifier. Ou alors parler pour critiquer, pour condamner, pour juger. Ça, c'est plus facile. Mais édifier, encourager les personnes. Pardonner. Ou alors condamner. Aimer. Ou alors haïr. L'Ecclésiaste, il est parlé de « il y a un temps pour tout hein ». Vous pourrez le retrouver si vous lisez, je crois que c'est le chapitre 3. Donc, il y a toujours pour nous une alternative, frères et sœurs. Hein? Pour chacun de nous, il y a une alternative. Tout n'est pas droit. Mais ça peut devenir droit. Parce qu'on décide. Deux chemins, deux choix, mais au bout, une décision. Si vous vous rappelez de la date à laquelle vous avez donné toute votre vie au Seigneur, c'est important ça. Hein? Moi j'aime bien les dates. J'aimais les mathématiques, mais j'aimais bien l'histoire. Et les dates, on apprend des dates. Hein? Mais pour notre vie propre, il y a des dates dans notre histoire, à nous personnelle aussi, qui est importante. Moi je sais que le 21 janvier 1970, j'ai donné ma vie à Christ. Changé. Le 9 mars de la même année, j'ai arrêté de fumer. J'avais donné ma vie, mais il y avait des choses encore à changer. Mais le chemin, c'était le 9 mars 1970. Je crois que c'était vers les 10 heures du matin. J'étais dans ma cour avec une brouette à mettre de la pierre. Ah oui, c'est important les précisions parfois, hein? Réfléchissez à cette date dans votre vie qui a pu marquer votre vie un jour et qui fait que vous avez une nouvelle vie aujourd'hui. Lorsque le Saint-Esprit vraiment est descendu sur moi, je crois que c'est en 87. 1987. 70, 87. Bon, j'avais fait une expérience au moment de mon baptême, mais ces choses n'étaient pas vraiment incrustées dans ma vie. Et c'était au mois d'août de cette année-là. Je ne me rappelle pas du jour, pour une fois. Mais c'est quelque chose quand même d'important que nous ayons dans notre vie des moments où nous avons fait des choix, où nous avons changé d'attitude, de comportement, pour trouver un autre chemin que celui que nous suivions auparavant. Josué, à la fin de sa vie, il avait 110 ans. Ça faisait 30 ans qu'il était en Canaan, hein, quand il est sorti du désert, il avait 80 ans, et Moïse lui a transmis le flambeau. Et pendant 30 ans, il a été dans Canaan à lutter, à combattre pour chasser les Amoréens, les Philistins, etc. etc. Hein? Et puis il s'adresse au peuple d'Israël en disant, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Mais 110 ans, c'était sa famille, ceux qui constituaient en somme ses enfants, et peut-être même ses petits-enfants, qui suivraient l'Éternel. Moi et ma maison, c'est d'une décision, un choix qu'il a fait. Et il dit à Israël, maintenant à vous de choisir, ou vous choisissez les dieux d'Égypte, ou vous choisissez les dieux de Moab, c'est quelle idée! Seulement, c'était en somme un peu d'ironie en disant vous avez, dans l'Égypte, vous aviez gardé les dieux d'Égypte, et puis ensuite, quand vous êtes arrivé en Canaan, vous avez repris les dieux des gens qui habitaient dans ce lieu. Vous les avez choisis. Et ils disent tous nous aussi, nous servirons l'Éternel. Ils ont dit oui. Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'avec l'histoire des juges, on voit que chaque fois, la tentation est là et on se tourne vers les dieux païens plutôt que vers l'Éternel. Ça nous paraît incroyable, ces choses-là. Mais attention, nous aussi, on peut choisir des dieux autres que l'Éternel. Notre situation, notre mariage, nos enfants. Plutôt que de suivre Dieu. Les compromis. Nous avons à veiller, frères et sœurs, sur notre conduite. Voulons-nous adopter, nous aussi, la conduite mondaine, ou alors voulons-nous garder notre voie dans le Seigneur ? Vouloir, c'est une chose, mais faire, c'est une autre chose. Ce n'est pas le vouloir ou le faire, c'est le vouloir et le faire. Ces deux ensemble, C'est formidable. Paul ici parle dans ce de livrer nos membres, de les livrer. Quand un livreur vient chez quelqu'un, il dépose le colis. Il ne repart pas avec. Ou alors, les gens sont absents. Hein. Mais quand il donne en main propre le colis, il livre et il s'en va. Nous de même, lorsque nous avons livré nos cœurs, livré nos membres à Dieu, nous sommes, comment dire, liés à Dieu. Nous l'avons livré. Voici le livre au péché, nous sommes livrés au diable. Tout à l'heure, quand Corneille a lu ce passage dans 1 Corinthiens 10, est-ce qu'on participe à la coupe des démons ou à la coupe de Dieu? Ou est-ce qu'on participe à la table des démons ou à la table de Dieu? C'est vouloir et faire ce que Dieu veut. Il dit ici, esclaves, en somme, de la justice pour arriver à la sainteté. Mais quelle justice? Quand on regarde dans l'Épître aux Éphésiens, on parle des armes du chrétien. Les armes du chrétien, et parmi l'une des armes, il y a la cuirasse de la justice. Et cette cuirasse de la justice, ce n'est pas, on pourrait dire, comme si la justice de Dieu se manifestait, c'est parce qu'on agit justement, parce qu'on agit avec vérité, parce qu'on agit avec droiture, parce qu'on se servir Dieu. Et cette justice qui est manifestée, c'est parce que nous écoutons la parole de Dieu et nous la mettons en pratique. Ce n'est pas la justice, la punition de Dieu qui vient sur nous, c'est parce que nous agissons d'une façon juste pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est important pour nous tous ici aujourd'hui. Importer cette cuirasse de la justice, avoir un comportement, une attitude qui honore à tous égards le Seigneur. C'est un bon choix. Face à l'adversaire, se protéger, son cœur. Quand on regarde la cuirasse, elle protège le cœur. Le casque protège nos pensées. Mais la cuirasse protège notre cœur de toutes les tentations et de toutes les attaques de l'adversaire sur nos vies. Jésus a dit une chose importante lorsqu'il avait parlé avec la Samaritaine et quand les apôtres sont venus et qu'ils l'ont vu, il a dit « Mais tu n'as pas mangé, comment ça se fait, qu'est-ce que tu fais là, assis au bord du puits ?» Et Jésus, une chose importante, a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je me rappelle toujours de ce verset parce que quand on est allé la première fois en Centrafrique en 88, il y a eu une chorale qui s'est créée dans les églises où vous fréquentez et qui avait pour slogan cela. Il avait fait un chant sur ce verset. Et finalement, il avait eu, on voyait ces jeunes qui étaient remplis de foi, d'amour, de force pour servir Dieu à travers le chant. Et ils circulaient dans les églises, d'abord en Centrafrique. Je crois qu'à un moment donné, même, ils sont allés au Canada. Ils sont partis jusqu'au Canada pour, finalement, aussi, il y avait, on va dire, un concours de chorale, mais des réunions là-bas au Canada, il y avait un genre de forum où les chorales chrétiennes se manifestaient. Et ils avaient été très appréciés parce que ça manifestait aussi leur foi et leur engagement pour Dieu. Aujourd'hui, l'Église, avec un grand E, hein, nous sommes une assemblée qui fait partie du corps de Christ, est confrontée donc à une situation nouvelle, du moins qui devient de plus en plus nouvelle dans le sens que on voit les médias, l'importance que les médias ont aujourd'hui dans le monde. J'ai l'impression que les médias font un peu la pluie et le beau temps. Et qu'on est en somme confronté à une situation, ça tient nouvelle. Là, qui ont les pouces, hein, toujours sur leur portable. Hein, tout le temps en train de communiquer. Ou alors, ils ont une otite généralisée chronique à l'oreille droite, avec l'appareil toujours collé sur l'oreille. Ou alors, on a l'impression qu'ils sont en train de parler tout seuls dans la rue. On les entend parler dans la rue, mais oui, mais ils ont un micro quelque part. Je me dis, mais on a un monde de fous. Tout le monde parle à la rue, et puis très fort en plus, on entend tout ce que, tous les échanges et tout, mais on est confrontés, nous, dans le monde, à cet aspect. Et nous avons à veiller, nous, dans l'Église, à ne pas être aussi contaminés. Et je pense qu'il y a déjà une contagion. Une vraie contagion. Bon, il y a la Bible sur le téléphone, c'est vrai, hein. On peut lire la Bible avec le téléphone, hein. D'accord. Mais on peut faire autre chose aussi. Ça arrive parfois dans le culte derrière, il y en a qui sont en train de faire des SMS. Hein. Si je vois, je confisque. Attention, je suis bien placé, hein. Bon, je n'ai peut-être pas la vue jusqu'au fond, mais méfiez-vous. Hein. Le monde aujourd'hui, finalement, les médias, toutes ces choses nous contaminent et nous empêchent notre communion les uns avec les autres, véritablement. Il y a un choix à faire. Moi, j'ai coupé mon téléphone. Vous avez coupé votre téléphone? Oui? C'est unanime? Ben, oui. Le monde cherche par tous les moyens à pénétrer dans les églises. Et ce moyen-là, moderne, ce moyen, les internets, fait que ça pénètre dans l'église. Parce qu'il n'y a pas que le téléphone. Il y a aussi Internet. Tout ce qu'on entend sur Internet, tout ce qu'on lit sur Internet, toutes les formes de doctrines qui viennent, qui sont là aujourd'hui et qui nous perturbent dans notre foi. On a des choix, un choix énorme de prédicateurs de toute espèce qui apportent toutes sortes de messages, des bons, mais aussi des moins bons, et qui conduisent les gens à suivre une doctrine qui n'est pas la vraie doctrine. C'est servir Christ d'abord. Que ferait Jésus à ma place? Servir Christ, mais pas servir la créature. Et je pense aussi que le monde voudrait que maintenant l'Église parle un peu moins de Jésus-Christ. Dieu, c'est bien. Mais Jésus, ça fait fuir. Je me rappelle toujours lorsqu'on a eu l'occasion de témoigner et de chanter dans la rue à un moment de Noël. Noël, naissance du Seigneur. On parle de Dieu, mais dès qu'on parle de Jésus, on voit les gens qui s'éloignent. On voit les gens qui quittent l'approche du groupe et puis ils s'en vont parce que, oh, Jésus. Alors que c'est lui le Sauveur, le Seigneur. Bon, c'est pas les dieux des hommes. C'est le Seigneur. Et c'est là l'essentiel. Et le monde préférait voir les églises faire des œuvres que de manifester la foi. La foi, c'est pour toi, tu te la gardes. Mais si tu fais des œuvres, là, c'est très bien, tu es reconnu, mais c'est pas ça. Comme Jacques parle des œuvres et de la foi, il dit que ce livre a été appelé l'épître de paille par Calvin, qu'elle ne valait rien, que c'était une épître qui n'avait aucune valeur, en somme, comment dirais-je, doctrinale. Elle était trop pratique. Trop près de la réalité. Elle dérangeait même, vous voyez, les théologiens. Mais pourtant, elle disait la vérité. À travers, justement, quand on parle « Montre-moi tes œuvres et je te dirai ta foi. »« Montre-moi ta foi et je pourrai voir tes œuvres. » Parce que si on fait des œuvres, c'est pour plaire à qui ? Est-ce que c'est pour plaire au Seigneur ou bien pour se plaire à soi-même? Encore un choix, là. Une décision à prendre. Si on le fait pour Dieu, oui. Mais si on le fait parce que soi-même, on se trouve un peu encouragé, attention. Comme tout à l'heure, quand on a lu aussi ce texte, il disait que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Paul disait aux Philippiens, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est pas nous, c'est lui. Est-ce qu'il y a des péchés qui résistent à notre vie? Est-ce qu'il y a des péchés qui résistent à notre vie? Il n'y a pas de oui? Il n'y a aucun? Il y en a. On a tous nos faiblesses. Alors, n'est-ce pas? Qui résistent. Et songeons aux efforts qu'il faut faire pour le combattre. Tout seul. Les efforts énormes qu'on fait tout seul pour combattre nos péchés. On veut à tout prix gagner. Mais approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Je crois que la solution souvent dans nos problèmes, c'est on veut faire les choses par nous-mêmes pour dire « Regarde Seigneur ce que j'ai fait. » Mais et moi alors, dit-il, je ne peux rien faire pour toi ? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il disait aussi « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Avec la condition de s'approcher de Dieu. Parce que tout seul, on est plus fort à deux. Dieu et nous. Deux choix. Faire ce qui plaît à Dieu ou faire ce qui nous plaît à nous. Faire plaisir à Dieu. Moi, je suis interpellé par le Seigneur à ce niveau-là. Quand hier matin, je préparais cela, je réfléchissais à ce que, est-ce que toujours et toujours, ma vie fait plaisir à Dieu? Est-ce que je n'ai pas aussi des travers? J'en ai. Mais je sais que Dieu veut m'aider et m'entourer. Ça fait plus de, tout à l'heure, depuis le 21 janvier 70, ça fait des années, il y a encore du boulot. Hein. Oh, ne soyez pas inquiets, jeunes gens, jeunes filles, qui ont donné leur vie à Christ. Ils sont tous plus jeunes que moi, donc pas de problème. Des jeunes. Vous avez besoin, encore aujourd'hui, de vous dire, il y aura toujours des combats, mais avec Dieu, je serai victorieux. Il y aura toujours des combats, mais avec Dieu, je serai victorieux. Quand le Seigneur nous dit « Toi, suis-moi », on voit les exemples dans l'Écriture, quand il y a eu ceux qui ont décidé tout de suite, pouf, Jean, Pierre, André, Jean-Pierre, quand Jésus a dit « Toi, suis-moi », ils étaient dans leur barque en train de réparer les filets, ben, ils sont partis, ils ont tout laissé. Mince, ils avaient fait une pêche miraculeuse, extraordinaire, qui leur donnait je ne sais pas combien d'argent pour plusieurs, peut-être mois. Ils ont tout laissé. Ils ont donné ça. Ils ont donné, oui. Ils ont donné, ils sont partis. Ils ont tout abandonné, tout lâché. D'autres, Jésus a dit, toi, suis-moi, mais il faut que j'aille enterrer mon père, ou il faut que je me marie, ou bien je dois aller acheter un champ. Un peu plus tard, j'irai. Quand Dieu vous parle, dites oui. Dites oui, oui, tout de suite. Abandonnez votre vie dans les bras du Seigneur. Vous serez débarrassé de vos faiblesses. Mais malgré tout, dans votre faiblesse, la puissance de Dieu s'accomplit. Des choix. Mais le bon choix, il faut le prendre. Suivre celui qui a changé ma vie. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Celui qui change notre vie, c'est lui. Soyez bénis et encouragés. On va prier un instant. Merci pour ce matin, Seigneur, pour ce que tu veux nous accorder de vivre dans ta présence. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi, nous voulons rester près de toi. Nous voulons faire le bon choix. Nous voulons décider de te suivre, toi, de t'honorer, de te glorifier. S'attendre à toi. S'attendre vraiment à toi, à ce que dans nos problèmes, nos difficultés d'aujourd'hui, tu nous donnes la solution. Tu veux le faire pour nous tous, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui fait exception de personne. Tu n'es pas celui qui fait à l'un et qui ne fait pas à l'autre. Tu as un regard sur chacun de nous. Tu nous aimes et tu veux nous donner ce matin le meilleur. Merci de toucher encore des cœurs et que nous puissions voir à travers aussi ce qu'on a pu partager ce matin, des décisions prises pour toi. Des changements de vie décidés. Même si le prix à payer semble trop fort, tu vas donner la force, tu vas donner la capacité, tu vas donner l'autorité là-dessus. Merci mon Dieu pour ce matin, et que ton nom soit béni. Amen. Amen. Amen.